Boomerang à vous, mon cher Augustin.
Nicolas Boomerang avec le cinéaste John Waters. Ce matin, c'est parti. Écoute, chacun son sale goût, me disait ma grand-mère dans un haussement d'épaule quand j'étais petit, en voyant mes figurines des chevaliers du zodiaque. Je me souviens que derrière sa bienveillante tolérance, il y avait l'expression magnifique de son dégoût. Le même dont elle usait en regardant la télévision quand elle aurait pu être au théâtre, le même sourire qu'elle décochait devant la couleur criarde de la robe de sa voisine, le même jugement dans un drôle de sourire, de contentement. Parce que son jugement était un témoignage de son bon goût, une façon de se positionner, de se distinguer. Dans ce texte si passionnant qu'est La Distinction, il y a un peu plus de 40 ans, Pierre Bourdieu explique bien comment nos goûts, que l'on pense si singuliers, sont en réalité bien souvent déterminés par un milieu, une éducation, un entourage, une classe sociale. Ces goûts, qui sont aussi peut-être d'abord des dégoûts, sont une façon de se positionner dans le monde, de se légitimer aussi, et même de s'imposer, parfois avec une certaine violence symbolique et sociale. Alors évidemment, elle aurait préféré que je lise Verlaine, ma grand-mère, mais devant le chevalier Seyard en plastique que je lui montrais avec admiration, elle me donnait cette étrange leçon de pouvoir et de domination. N'oublie pas d'où tu viens, regarde où tu vas. Quand elle me disait « chacun son sale goût », elle me faisait une fleur, une indulgence, une petite exception de grand-mère, mais le message était très clair.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui a fait du mauvais goût un art à part entière, souverain pontife de la subversion, de l'outrance, de l'underground. Son cinéma décapant, né à Baltimore au milieu des années 60, tourne en dérision tous les codes de la bien-pensance. On va fonctionner par devinette. Si je vous dis Flamant Rose, Odorama et Divine, vous me répondez John Waters, évidemment. Bonjour John Waters.
Hello, how are you?
Très bien, merci beaucoup d'être là. C'est un grand honneur. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est pour vous le mauvais goût?
Bad taste to me. These
le mauvais goût pour moi de nos jours, il s'est fait exploser par Donald Trump. Ce type a même explosé le mot « mauvais ». Parce que sa Maison Blanche est décorée avec « mauvais goût », mais il ne le voit même pas. C'est Jeff Koons sans aucune connaissance des arts. En fait, aujourd'hui, on a un bon mauvais goût et un mauvais mauvais goût. Le bon mauvais goût, c'est mettre volontairement en avant ce qui brise les règles et le détourner en le portant ou l'affichant différemment.
Donc ça se cultive en fait.
Oui. Et le mauvais mauvais goût, c'est tout ce qui est grossier, sans esprit. C'est la connerie en fait. C'est surtout faire comme si on avait du fric. Parce que les gens riches, qui ont vraiment de l'argent, essaient de le cacher, de le minimiser. Ce qui montre leur fric et qui s'en vante. C'est ceux qui n'en avaient pas quand ils étaient jeunes.
Alors c'est très intéressant, parce que ce que vous nous dites en fait, John Waters, c'est que le mauvais goût, il suppose une connaissance très précise de ce qu'on appelle le bon goût. Le bon goût, pour le coup, ça correspond à quoi pour vous ?
Moi, j'ai grandi entouré par le bon goût, à tel point qu'il m'a fallu me révolter. Mais j'en suis reconnaissant envers mes parents, car s'ils ne m'avaient pas inculqué le bon goût, je n'en connaîtrais pas les règles pour mieux les briser et définir mon style de mauvais goût.
Alors le bon goût, dans le Baltimore des années 50, c'était quoi précisément, celui qui vous dégoûtait ? John.
Le bon goût dans les années 50, c'était les antiquaires, les vieux meubles, les tapis d'Orient. Aujourd'hui, tout ça, c'est à jeter en Amérique. Personne n'en veut. Les jeunes aiment le style moderne des années 50, alors qu'il était détesté quand j'étais jeune. C'était du mauvais goût. C'est pourquoi la caravane de Pink Flamingos était pleine de meubles des années 50. Ça ne coûtait rien chez les brocanteurs. Personne n'en voulait. Et aujourd'hui, c'est le contraire. Les antiquités dont j'ai hérité de mes parents, tout le monde les fuit. Il n'y a que le mobilier des années 50. Les goûts changent avec le temps. Il faut suivre.
En fait, j'ai l'impression, à vous entendre, que quelque part, le mauvais goût a perdu la dimension subversive dont vous l'avez doté dans tous vos films. De nos jours, est-ce que c'est encore possible d'être subversif, John Waters?
Au début, le mauvais goût, on disait que c'était kitsch. Personne ne dit plus ça. J'ai l'air d'un vieux pédé qui radote sur Rita Hayworth et les antiquaires. Et puis, on a appelé ça le trash. Moi, je disais le crade. Je trouvais ça plus punk.
L'abject.
Mais aujourd'hui, tout ça, ça fait partie de l'humour américain et de l'humour français, d'ailleurs. Tout ça rentre dans l'humour, la blague. Si aujourd'hui, vous voulez être subversif, il faut trouver une nouvelle façon de faire peur aux gens. Et c'est le devoir de la jeunesse.
Qu'est-ce que ce serait, le nec plus ultra de la subversion pour vous ?
Ça, c'est une question difficile. Dans le domaine des fringues, je dirais que c'est d'entrer dans la friperie la plus moche, d'acheter le vêtement dont, au fond d'une poubelle, personne n'a voulu même pour un centime, et de le porter. Rien que pour emmerder ceux qui se croient un peu trop à la mode. Ça, c'est très cool.
John Waters, votre dernier film réalisé remonte à 2004. Il s'appelait A Dirty Shame. Ce film, vous avez souvent dit que c'était le dernier. Jamais ça vous manque, le cinéma ?
Non, pas vraiment. J'ai réalisé 17 films. C'est pas comme si je m'étais pas exprimé. Ces films n'arrêtent pas de ressortir en version restaurée. Criterion vient de rééditer Multiple Maniacs, qui est même passé sur TCM aux USA. Mais je rêve. Pink Flamingos est passé sur la chaîne Sundance. Ils m'ont appelé pour me demander est-ce qu'on peut couper la scène de fellation. J'ai dit ok, coupez-la. Mais ils ont oublié de la couper. Quand je pense qu'il y a des familles qui zappent d'une chaîne à l'autre et qui tombent sur la scène du cul qui chante. Papa, c'est quoi ça ? C'est un trou du cul, fiston. Et ne deviens pas comme lui.
Et de faire rire, comme vous me faites rire en ce moment, ça vous manque pas, ça, par la grâce du cinéma ?
Non, parce que j'écris des livres. J'ai mes spectacles de lecture, je suis plus occupé que j'ai jamais été. Les bouquins marchent mieux que les derniers films. Parce que les budgets du cinéma indépendant, aujourd'hui, sont tellement réduits. Moi, j'ai besoin de raconter des histoires. J'ai fait ça toute ma vie. À 12 ans, j'étais marionnettiste pour les fêtes d'anniversaire. J'avais une carrière toute tracée. Jusqu'à ce que je fasse jeter du faux sang dans le spectacle et que les parents cessent de m'engager. Ça a toujours été mon truc. J'ai toujours fait des vagues. Déjà, je suis né 2 mois en avance. J'étais un prématuré. Et j'étais bien trop baptisé. Hein. Voilà mon histoire.
Votre sourire, John Waters, quel pouvoir est-ce que c'est, le rire entre les mains d'un artiste ?
C'est un grand pouvoir, et je ne le fais pas pour le pouvoir, mais quand on vient vers moi, dans le monde entier, pour me dire « vos films m'ont aidé à passer l'adolescence alors que je me sentais mal et que je ne trouvais pas ma place », ça c'est un grand honneur pour moi. Je n'ai pas fait ces films pour ça. Je les ai faits parce que nous aussi, on était exclus. On a fait des films pour rire un peu. Et j'ai la chance de continuer depuis 50 ans. Je remercie tous ces gens parce que grâce à eux, j'ai jamais eu besoin de trouver un vrai boulot.
Qu'est-ce qui vous fait rire encore aujourd'hui ?
Ce qui me fait rire parfois, c'est quand les gens font des trucs qu'ils ne trouvent pas drôles, eux, mais qui sont pas possibles. Il y a eu un truc très choquant que j'ai vu il y a quelques semaines. C'est Trump qui participait à un meeting et qui s'est approché du drapeau américain et qui s'est mis à l'embrasser et à lui dire « I love you, baby ». Mais bon sang, je me pince. J'ai cru que c'était une parodie, que c'était Saturday Night Live.
Vous auriez pu mettre ça dans un film.
Mais il l'a fait. Allez-y, tapez sur Google « Trump câlin drapeau » et vous allez voir. Avec le virus, on n'est pas censé tripoter les drapeaux. Quel exemple catastrophique pour le monde. Et on n'est pas censé jouer avec un drapeau, c'est un manque de respect. On ne fait pas de bisous, on ne le tripote pas. Là, on dirait qu'il l'attrape par la chatte.
Celle qui ne fait pas rire du tout dans cette émission, peut-être que vous la connaissez, John, c'est la culture et son actualité sinistre et rabat-joie. Que se passe-t-il donc aujourd'hui ?
Oh, Red, please don't go. You can't leave me, please.
One thing I do know, that is that I love you, Scarlett.
Sacré coup de vent, alors que le roman de Margaret Mitchell, Autant en emporte le vent, tombe dans le domaine public cette année, deux traductions sortent en librairie en France, l'une chez Folio, l'autre nouvelle chez Gallmeister. Le livre, autant que le film, fait tempête depuis plusieurs années pour son biais sudiste, son traitement des Noirs américains, sa vision de l'histoire surtout. HBO Max a d'ailleurs retiré temporairement le long-métrage de Victor Fleming de son catalogue, prévoyant de le remettre en ligne prochainement, accompagné d'un appareil critique. En France, on attend encore les grandes préfaces. Ça passe ou ça casse.
Par essence même, le photographe ne dit rien. Il est toujours discret, il est toujours un peu silencieux, un peu taiseux. Mais quand même, il faut nous aider. Il ne faut pas nous oublier. Il faut nous donner un petit peu d'aide.
Chevaucher le tigre, mais le monde de la photographie en fait son quotidien depuis toujours. Dans une tribune relayée par Libération, 700 photographes, dont Yann Arthus-Bertrand ou Raymond Depardon, exhortent Emmanuel Macron à sauver la photographie, soulignant les conséquences dévastatrices de la crise sanitaire sur leur activité et rappelant les fragilités de leur situation. Ils réclament une défense sans concession de leurs droits d'auteur, ainsi qu'un plan de financement et de subvention pour le monde de la photographie. C'est dit. Tremble, Beyoncé, le Dalai Lama, chef spirituel du Tibet, a annoncé qu'il allait sortir Inner World, son premier album, le 6 juillet prochain, jour de son 85e anniversaire. Composé de mantras sacrés, portés par plus de 30 instruments, le disque a même un premier single qui est déjà disponible, mis en ligne lundi. Le morceau titré Compassion est une version revisitée d'une prière bouddhiste célèbre sur un low tempo planant. Om. Du beef pour les livres. Bruno Le Maire et Franck Riester ont présenté hier de nouvelles mesures pour soutenir les librairies indépendantes et accompagner la diversité éditoriale de l'édition fragilisée par la crise sanitaire. En tout, près de 230 millions d'euros seront débloqués en 2020 pour le secteur. Une enveloppe de 12 millions d'euros doit notamment servir à moderniser les plateformes de vente à distance des librairies pour lutter contre l'hégémonie d'Amazon. Le cinéaste américain John Waters, invité de Boomerang ce matin pour parler de votre cinéma, un cinéma devenu culte et qui évoque immédiatement un lieu, à savoir la ville de Baltimore où vous êtes né dans la deuxième moitié des années 40. La cinégénie de cette ville, elle repose sur quoi pour vous?
Well, it's a, we got edge.
On a quand même des problèmes. C'est une ville où se développent les contraires. Certains sont très positifs, d'autres très négatifs. Ces derniers temps, ça fonctionne plus. On dit que nos quartiers sont très forts, mais c'est bien là le problème. Les gens ne quittent jamais leur quartier, ils ne savent pas comment on vit ailleurs. J'ai toujours dit que la solution à nos problèmes de racisme à Baltimore, c'est de forcer la mixité. Une fois par an, chaque habitant devrait aller vivre dans un quartier à l'opposé économiquement du sien, pendant une semaine. Fréquenter les bars, aller chez le coiffeur, envoyer ses enfants à l'école, une semaine, et après il revient chez lui, pour voir comment c'est la vie des autres. Ça marcherait peut-être.
Alors vous l'avez vu changer, cette ville, évidemment, par rapport au Baltimore dans lequel vous avez grandi.
Mais tout a empiré ces derniers temps. Nos politiques se font tous arrêter pour escroquerie. Nos deux derniers maires, des femmes, se sont fait choper pour délinquance. La première volait des bons cadeaux réservés aux pauvres. Des bons cadeaux de 10 dollars, c'est minable. Et l'autre avait mis en place une arnaque sur la vente de ses propres livres. Un truc dingue. C'est un vrai boulet, ce truc. Je ne sais plus pour qui voter. On a de la corruption et on a de la grande pauvreté. Je n'ai pas la réponse. Distribuer de l'argent ne fonctionne pas non plus. Ils ont essayé. Comment enrayer cette pauvreté qui est là depuis des siècles? Je n'ai pas la réponse.
Quand vous avez commencé à filmer cette ville, quel visage est-ce que vous avez essayé d'en montrer à travers vos films? Quelle était la face cachée de Baltimore, en fait?
Baltimore a longtemps eu un complexe d'infériorité. Baltimore se trouvait nulle et se moquait d'elle-même. Maintenant, on en rit toujours, mais c'est positif et nous sommes bien placés. Mon premier film, j'appelais ça du cinéma de caniveaux. On a fait la pub là-dessus. Je l'ai tourné dans les lavomatiques, des caniveaux, des taudis. Mais le film montrait leur beauté. Et Divine y était une déesse trash. On grossissait, on glorifiait tout ce que les gens disaient en mal sur Baltimore. Mais nous, on prenait ça à bras-le-corps. Barry Levinson a fait la même chose dans ses films à Baltimore et la série The Wire a fait la même chose. Nous avons tous filmé les extrêmes de Baltimore et pas forcément les plus reluisants. Mais les gens ont aimé ça et ont été plus sensibles à cette ville.
Vous voulez dire que vous ne dérangiez pas tant que ça?
Au début, le public a aimé, mon public a aimé. C'est les critiques qui ont détesté. On n'a pas une seule bonne critique en 10 ans. Et nos campagnes de pub citaient ces mauvaises critiques. À l'époque, ça nous a aidés. Depuis le tout début, j'ai eu un public. Des gens issus de minorités qui ne s'entendaient pas avec cette minorité. Des PD qui n'aimaient pas le milieu. Des militants noirs qui ne pouvaient pas saquer les blancs. Des motards qui préféraient la compagnie des drag queens. C'était tout un monde barré. bariolé d'exclus. Et ce mot n'existait même pas. Les exclus, c'est un mot d'aujourd'hui, ça fait de gauche. Aujourd'hui, moi, je veux être un inclus. Et moi, si la société m'inclut, moi, c'est quand même le comble.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette ville, elle vous perçoit comme une icône.
Kind of they do, yeah.
À peu près,
but,
oui.
That's kind of amazing.
Mais c'est dingue. Ça me flatte. Et je dis ça sans ironie. J'ai même reçu une médaille de l'État français pour ma contribution au cinéma. Ça m'a beaucoup ému.
Ce qui est intéressant, c'est que dans les années 70, John Waters, vous étiez considéré comme un personnage excentrique, sulfureux, voire carrément infréquentable. Aujourd'hui, vous êtes effectivement chevalier des arts et des lettres. Vous êtes un individu plus que respectable. Qu'est-ce qui s'est passé, à votre avis? C'est le monde qui a changé.
Yes, the world did change.
Oui, c'est ça, le monde a changé. Moi, j'ai pas changé. Mon dernier film s'intéressait à des accros au sexe. Mon dernier livre parle de bar à putes sordides. Et donc, j'ai pas changé, moi, beaucoup. Mais au fil des ans, les gens se sont vraiment ouverts à l'humour même limite. Et je ne crois pas être quelqu'un de méchant. Je me moque de choses que j'aime. C'est toute la différence. La méchanceté, c'est drôle pendant 20 minutes. C'est pas drôle pendant 2 heures.
Qu'est-ce qu'il y a de plus respectable en vous, John Waters?
Ce qu'il y a de respectable, peut-être, c'est que j'ai maintenu de très belles amitiés pendant 50, 60 ans. Et c'est comme ça qu'on peut juger sa vie.
C'est intéressant que vous parliez de l'amitié, je pense, à vos films, et en particulier à ceux où vous avez mis en scène votre icône et égérie divine, dont on parlera tout à l'heure, de Multiple Maniac à Hairspray, en passant par Pink Flamingos, Female Trouble ou encore Polyester. Pourquoi est-ce qu'ils sont restés? Pourquoi est-ce qu'ils ont tant marqué, à votre avis?
Ils restent parce que, sincèrement, quand je fais mes spectacles, beaucoup de spectateurs n'étaient pas nés quand j'ai fait mon dernier film, pas même mon premier. Et les films fonctionnent toujours. J'ai essayé, en les tournant, de ne pas trop les dater. Jamais je n'aurais parlé de Trump, par exemple. Tout de suite, ça date. 20 ans après, tout le monde s'en fout. J'ai utilisé l'humour et en même temps, je vous ai invité dans un monde peut-être pas très confortable pour vous, mais j'ai été votre guide et j'ai tenté de vous faire rire. Quand on fait rire les gens, ils vous écoutent. C'est comme ça qu'on remporte un débat, qu'on gagne une guerre. Dans mon dernier livre, Mr. Know-It-All, il y a une guerre que je perds car j'étais le premier à rire.
Et l'irrévérence et l'abject, c'est vrai que c'est universel et totalement intemporel. Je rappelle quand même que dans Pink Flamingos, Divine mange des déjections humaines et s'en régale. Elle dévore une brigade de policiers, ce qui est quand même assez impressionnant. Quelle est la chose la plus abjecte que vous ayez jamais mise en scène, à votre avis?
Je ne referais sans doute pas la scène de Mondo Trasho où les poulets sont exécutés. Je ne referais pas ça, non. On a aussi eu une scène fameuse avec un poulet dans Pink Flamingos, mais je dis toujours qu'on a acheté le poulet chez un boucher où c'était écrit « poulet fraîchement tué ». Et ce poulet, il a joué dans une scène de sexe, il a fait du cinéma. Il est devenu célèbre et en plus on l'a bouffé.
John. Moi je pense à l'odorama dans Polyester où le spectateur était invité en fait à sentir entre autres odeurs celle du déodorant, de WC, d'excrément ou de pizza pendant la projection.
Ce que j'ai appris du show business, c'est que partout dans le monde, quelle que soit la langue, la politique, la sexualité, la race, tout le monde est prêt à vous payer pour sortir un pain.
Quel est votre parfum préféré, John Waters?
J'avais un parfum de chez Comme des Garçons qui s'appelait Odeur, quelque chose, clairement fabriqué avec rien de naturel. Chaque bouffée était chimique. Le truc horrible.
On va reparler de tout cela juste après The Honey Sisters, que l'on retrouvait sur la bande originale de votre film Cry Baby, avec Johnny Depp notamment en 1990. Vous êtes sur France Inter avec John Waters, vous écoutez Boomerang, et c'est pas rien. Bye.
Augustin Trapenard.
C'est simple, on est quelque part entre Gomez, le dandy paternel de la famille Adams, le serial killer dans un roman de James Ellroy, et l'acteur hollywoodien des années 40. Il est tiré à quatre épingles, il a le cheveu blanc et gominé, l'œil forbant, la dent canaille et cette inénarrable petite moustache dessinée à l'eyeliner au-dessus de sa lèvre avec son col roulé et sa veste.
C'est du velours côtelé, mais blanc, et un blanc d'hiver, car il ne faut jamais porter du blanc en été. C'est une violation des codes de l'élégance. Dans Serial Mom, Patty Hearst se fait tuer par Kathleen Turner pour avoir porté du blanc. Mais le blanc d'hiver, on a le droit. C'est un interdit de porter du velours avant Thanksgiving en Amérique. C'est interdit de porter des chaussures à motifs avant Pâques. Je ne suis de droite que pour un seul truc, les lois d'élégance.
John Waters, invité de Boomerang ce matin pour parler de cinéma. Quand est-ce que vous avez commencé, John, à tourner vos premières images ?
Mes premières images, c'était au lycée. Ma grand-mère m'avait offert une caméra Brownie. C'était avant le Super 8. C'était le 8 mm. Et moi, j'étais comme Lars von Trier. Je ne savais pas ce que c'était que le montage. Donc, pas de montage. Ce qui sortait de la caméra était exactement ce que je montrais. Je sortais les bobines et je les projetais.
Mais quel genre de femme est-ce que c'était, votre grand-mère, pour vous offrir une caméra?
Ils savaient tous que je serais dans le show business. Je faisais des marionnettes, j'étais obsédé par le cinéma. J'avais écrit des nouvelles qui m'avaient attiré des ennuis quand je les avais lues en colis de vacances. Les parents étaient pleins. Ma grand-mère a dû vouloir m'orienter vers quelque chose que j'aimerais. Elle était horrifiée quand elle a vu le film. Mais ils me soutenaient quand même. Et puis, qu'allais-je faire d'autre? Si ce n'était pas le show business, ce serait la prison.
C'est intéressant quand même de savoir quel regard votre famille de la bonne bourgeoisie de Baltimore portait sur vos films qui ne reculaient, on le rappelle, devant aucun blasphème. Je garde en mémoire quand même cette scène assez improbable de Multiple Maniac, où Divine a un orgasme après qu'une religieuse lui a introduit un chapelet dans le rectum. La scène est tournée dans une église. Ah, c'est vrai que là, on atteint quand même des niveaux d'outrance et de fou rire inégalés au cinéma de jeunes. Qu'est-ce qu'ils en disaient, vos parents, de ce genre de scène?
Mes parents n'ont jamais vu Multiple Maniacs. Après Mondo Trasho, ma mère m'a dit, toi, tu vas mourir dans un asile ou te suicider ou faire une overdose. Et j'ai répondu, ah, tu as aimé? Mon père est sorti de A Dirty Shame et il m'a dit, c'était rigolo, mais j'espère ne jamais revoir ça. J'ai pu compter sur l'humour de mes parents. Sinon, ils auraient été horrifiés. Là où j'ai été mal pour eux, c'est le prêtre qui nous avait permis de tourner dans son église. Il ne savait pas ce qu'on tournait. Et j'avais un copain très engagé qu'il avait pris entre quatre yeux pour lui parler du désengagement au Vietnam, des Black Panthers, tout ça, pendant qu'on tournait la scène. Et il est venu à la première. Il était mortifié. Je vous en supplie, ne dites jamais à personne où vous avez tourné ça, et je ne l'ai jamais dit. Je ne sais même plus où c'était, franchement. J'ai écarté ça de ma mémoire.
Mais au final, on vous a toujours laissé faire, John Waters.
Et oui, même pour Female Trouble, dans lequel Divine portait sa robe de mariée transparente, où on pouvait voir sa touffe. Les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus de touffe. La mode pubienne a bien changé. Et plus tard... Et plus tard, ce révérend a divorcé. Et je ne l'avais pas vu depuis 20 ans. Et l'avocat de son épouse nous appelle pour nous demander de déclarer que son ex nous avait permis de tourner un film porno dans son église. J'ai dit, c'est pas un porno, c'était un film d'art et essai. Je témoignerai contre vous, c'est un type adorable. Et l'avocat n'a pas rappelé.
Kill everyone now. Eat shit. Filth is my politics. Filth is my life.
I cannot take another heartbreak. I just cannot take
it. Girl can't help it. Can't help it. Girl can't help it.
Read my lips. I love you.
I love you too, my darling. Then let's make love, you sweet little thing.
Please, it's not a school night and I've been a good girl. Just one night of happiness is all I ask.
This is Odorama.
My name is Francine Fishpole. And I am an alcoholic.
Look, The star of Pink Flamingos is here again. It's Divine. She's got balls, and she's got female trouble.
Baltimore, 1962. The heyday of hairdos and hair don'ts. The new comedy from John Waters. It's way beyond Grease. Hairspray.
I'm a thief and a shit kicker, and I'd like to be famous.
John Waters, on en a déjà un petit peu parlé, mais c'est vrai que votre cinéma reste associé au personnage de Divine, la drag queen la plus iconique du 7e art, et même si vous avez continué à faire des films après sa disparition il y a 32 ans, Glenn Milstead, qui était derrière le personnage de Divine, comment est-ce que vous avez fait sa connaissance? Il faut nous raconter.
Vous dites Glenn, et j'avais oublié son vrai nom, mais c'était Glenn quand je l'ai rencontré au lycée. Ses parents avaient emménagé à 5 maisons de chez moi. Dans la vie, il était tout le contraire de ce qu'il était à l'écran. C'était un garçon trop gros, féminin, qui se faisait tabasser au lycée tous les jours. Le lycée, c'était horrible pour lui. Plus tard, il a utilisé sa rage pour construire comme un acteur de la méthode ce personnage de Divine. Il n'était pas du tout comme ça en vrai. C'était un garçon gentil. Il voulait pas être une femme. C'était pas un travesti, il voulait être un monstre. Il n'était pas kitsch, il était punk. Avant que ça existe. Divine ne s'habillait jamais en femme, hein, sauf au cinéma ou pour chanter. C'était un gros qui disait « Pauvres femmes qui doivent porter ces trucs trop chauds, les perruques, les gaines. » Jamais il n'était travesti, sauf pour les tournages. Ça lui donnait une force. Et Divine a influencé toutes les drag queens. Aujourd'hui, elles sont à la mode et marrantes. Mais quand j'étais jeune, elles étaient bizarres. Elles voulaient être Miss America ou leur maman. Elles portaient des visons comme des reines de beauté. Aujourd'hui, elles sont plus comme ça. Elles ont tout un personnage comme Uretra Franklin. Quel nom génial.
Comment votre cinéma a survécu à sa disparition?
Il a survécu parce qu'à la mort de Divine, je n'ai plus filmé de drag queens. J'ai engagé Johnny Depp, l'exact opposé. Voilà comment j'ai fait. J'ai tourné plus de films sans Divine qu'avec, si on regarde ma filmographie. Et il me manque au cinéma. S'il était encore là, il ferait une grand-mère salope géniale. Là où il est enterré, j'ai pris une concession à côté. On sera tous enterrés là et ça s'appellera Disgraceland.
Et comment il est né, ce personnage, John Waters, cette Divine très anticonformiste, pas toujours très sympathique, Divine, on le rappelle, adepte du cannibalisme et de la coprophagie, c'est quand même concept. Comment est-ce qu'elle est née?
J'ai inventé Divine inspiré par Genet. Le nom Divine vient de son roman Notre-Dame des Fleurs, qui m'a beaucoup influencé. Et Genet, je prie en pensant à lui. Si je dois prier, je pense à lui ou à Pasolini. Divine, à l'époque de nos premiers films underground, un de ses premiers rôles pour moi, c'était Jackie Kennedy, dans une caricature de l'assassinat de son mari. Et c'était 2 ans après les faits, les gens ne trouvaient pas ça drôle. Et c'est vrai, sa mère ne savait pas qu'il était Divine et qu'il tournait dans mes films. Elle est tombée sur le costume ensanglanté de Jackie Kennedy dans le coffre de sa voiture. C'est quoi ce truc? Et Divine, qui avait trop fumé, lui a répondu, Jackie Kennedy. C'est moi.
Elle faisait peur.
Et elle ne lui en a plus jamais parlé.
Elle faisait peur aussi. Elle inquiétait. Et petit à petit, on l'a adoptée. Est-ce que vous pensez qu'elle ferait encore peur aujourd'hui?
Yeah, that's good.
Mais c'est vrai, on l'avait créée pour qu'elle fasse peur aux hippies. Mais je dois dire toute ma reconnaissance envers Van Smith, qui a créé tous les maquillages et les costumes de mes films. C'est lui qui a conçu ce look. Je lui ai demandé de se lâcher au niveau de la naissance des cheveux autour du visage. On a rasé le crâne de Divine parce qu'il fallait plus de place pour le maquillage des yeux. La naissance des cheveux le limitait trop. À un moment dans Female Trouble, Divine a les sourcils qui se plongent derrière le crâne. Et c'est lui qui a fait les costumes, tout.
Mais vous pensez qu'elle ferait encore peur aujourd'hui, toute hilarante qu'elle était?
Divine aurait 74 ans cette année. À quoi ressemblerait Divine? On aurait travaillé son image. On l'aurait peaufiné. Il devait jouer une lesbienne butch dans Desperate Living. Hein. Ça aurait été quelque chose, avec un look à la Johnny Cash.
Ouais.
Très old school, comme on a à Baltimore.
On
aurait travaillé son image. Dans son dernier film, il joue un homme pour Alan Rudolph. Et la veille de sa mort, il devait rejoindre le tournage d'une grosse sitcom, Marié deux enfants. Dans le rôle de l'oncle gay, ça aurait été le premier personnage gay dans une énorme série américaine. Ça aurait sans doute changé de nouveau sa carrière.
Qu'est-ce qui vous manque le plus chez Devine?
C'est dans ma vie personnelle qui me manque le plus, pas dans les films. Il est trop mignon à Noël. Divine adorait Noël. Il organisait des réceptions splendides. Il était tout le temps à fumer du hash, c'est vrai. Il était stone tout le temps. Il grignotait tout le temps. C'est le grignotage qui a eu sa peau. Lui, il avalait 4 tartes entre chaque séquence. Pourquoi tu manges tout? Je lui disais. J'ai pas envie que quelqu'un d'autre me les prenne.
Merci infiniment, John Waters, d'être venu faire un tour dans Boomerang. Merci à votre interprète ce matin, le divin Harold Manning, comme j'invite tous les auditeurs de Boomerang à se replonger urgemment dans votre filmographie. Pink Flamingos, Female Trouble, Polyester, Hairspray, Crybaby ou encore Serial Mom avec la formidable Kathleen Turner. Vous m'avez encore donné envie de les revoir ce matin. Je voudrais aussi remercier Chantal Nouvelot à la technique.